Bonjour à tous. C'était il y a quasiment 6 mois. Le port de Beyrouth était ravagé par l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium. Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour Jacques.
Il se trouve que la France est le pays qui en utilise le plus en Europe et que ce soit en Alsace, en Loire-Atlantique ou en Gironde, des lanceurs d'alerte tirent la sonnette d'alarme. Nous allons donc voir ce qu'il en est avec vous.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Une énorme explosion. On voit des crépitements. Puis il y a une seconde déflagration. Le souffle est tel que le vidéaste amateur est déséquilibré. Sur ce bateau, c'est la sidération. Filmé depuis un appartement, on voit l'énorme champignon qui s'élève dans le ciel.
Voilà un extrait d'un reportage qui était diffusé sur France 3 en août dernier. Deux explosions dans un entrepôt de nitrate d'ammonium dévastent le port de Beyrouth. Or, le nitrate d'ammonium, eh bien, on en utilise, on va le voir, beaucoup en France. On s'est donc demandé si ce qui s'est passé à Beyrouth ne pourrait pas aussi se passer un jour chez nous. Mais avant de répondre à cette question, Benoît Colomba, il faut peut-être tout simplement expliquer ce qu'est le nitrate d'ammonium.
Oui, eh bien, c'est un produit chimique, une réaction entre l'ammoniac et l'acide nitrique qu'on trouve sous forme de poudre ou de granulés. Alors, à l'état pur, on l'utilise dans les mines et les carrières comme explosif, mais on l'utilise aussi sous une autre forme comme engrais dans l'agriculture. On les appelle alors des ammonitrates. Et il faut noter que la France est le plus gros consommateur de nitrate d'ammonium en Europe, le deuxième dans le monde derrière la Turquie.
Ouais, le problème, c'est que ce produit, il faut le manier avec une extrême précaution.
Ah oui, il est à l'origine de nombreux accidents sur la planète. On se souvient tous de l'explosion de l'usine d'engrais AZF à Toulouse le 21 septembre 2001, qui a fait 31 morts et 2500 blessés. Gabriel Ullmann a effectué plusieurs audits sur le site avant la catastrophe et il n'a pas été surpris par ce qui s'est passé.
C'était tout d'abord une très vieille usine qui datait du début du XXe siècle, qui était digne de Zola. Et d'ailleurs, quand j'allais me rendre dans cette usine, donc à 3 reprises, je disais à mon épouse, je vais chez Zola. Il y avait un certain nombre d'ateliers, d'ailleurs encore sur terre battue, et on voyait des petits tas de nitrate d'ammonium dans différents ateliers, à même le sol, qui jonchait comme ça par terre, et on marchait dedans, dessus, pas partout dans l'usine, mais dans certains endroits. Et sans visiblement une préoccupation quelconque du risque associé au nitrate d'ammonium, puisque comme je le disais, il y en avait de partout, que c'était même pas vraiment balayé, donc les gens vivaient dans le nitrate d'ammonium comme ils ont toujours vécu pendant des décennies, quoi.
Et depuis la catastrophe, l'usine filiale du groupe Total a été rachetée par la société Borealis.
Oui, en tout cas, ce qu'on entend, Benoît, c'est qu'avec le nitrate d'ammonium, je le disais, il faut faire très attention.
Oui, et il faut notamment éviter la moindre source de chaleur parce que même s'il n'explose pas, certains nitrates d'ammonium peuvent dégager des vapeurs toxiques. C'est ce qui s'est passé en octobre 1987 à Nantes lors d'un transport sur une péniche avec des conséquences assez spectaculaires, rappelle Christian Michaud, expert du risque industriel à France Nature Environnement.
La péniche qui a transporté les produits à l'origine de l'incendie a été mal nettoyée. Le produit a été chargé à une température supérieure à ce que cela aurait dû. Si bien que ces produits-là ensuite ont été déchargés, placés dans des cases dans le hangar. Mais comme le produit était instable, il a commencé à se décomposer. La décomposition de ces produits-là conduit à l'émission de produits comportant des vapeurs nitreuses, donc très toxique. Hein. Le nuage était relativement impressionnant et s'est propagé à distance. Enfin, le préfet a décidé d'évacuer 25 000 personnes.
Oui, 25 000 personnes, ça commence à faire du monde. Mais des incidents de ce type, il y en a souvent.
Alors des accidents graves, heureusement non, mais dans le secteur agricole qui consomme énormément d'engrais azotés comme l'ammonitrate, il ne faut pas grand-chose pour que la situation dégénère, explique le spécialiste en risque industriel Paul Poulain.
Il suffit d'une montée en température, due à un incendie par exemple combiné à 0,2% de matière organique, par exemple un simple copeau de bois, pour arriver à une situation explosive. On voit bien que ça peut arriver très facilement si on ne met pas en place des systèmes de protection incendie. Les chiffres que je peux avoir du ministère de la Transition écologique font état de 1 à 10 accidents à cause du nitrate d'ammonium agricole chaque année en France. Si on appliquait la réglementation, notamment en sécurité incendie, dans toutes les exploitations agricoles, ça les obligerait à mettre en œuvre des systèmes de détection incendie, voire d'extinction automatique, qui coûtent extrêmement cher, et donc ça réenchérirait l'agriculture en France. C'est la raison pour laquelle on préfère prendre des risques que d'équiper ces installations de systèmes de sécurité.
Attendez, ce qu'il est en train de nous expliquer là, Benoît, c'est que de nombreuses exploitations agricoles ne respectent pas les normes incendies.
Oui, et pour le consultant en sécurité incendie, Ronan Nicolas, c'est d'autant plus problématique que des départs de feu dans des exploitations agricoles, on en voit régulièrement.
Ça peut être lié à de la fermentation, le fait par exemple si on prend des balles de foin qu'on va rentrer et qui sont encore humides, qu'on va stocker, il va y avoir une fermentation qui va générer ensuite des départs de feu. Ce départ de feu qui peut aussi partir d'installations électriques vétustes. Il y a énormément de feux en fait dans les exploitations agricoles. On stocke beaucoup de combustible, c'est ça le risque. Le problème, c'est quand, associé à ce combustible, il y a du stockage de nitrate d'ammonium. Dans ces cas-là, on a tous les ingrédients d'une véritable bombe agricole.
Une bombe agricole, c'est plutôt inquiétant ça, non ?
Oui, écoutez par exemple ce qui s'est passé le 2 octobre 2003 à Saint-Romain-en-Jarret dans la Loire. Ce jour-là, les pompiers sont appelés pour un feu dans le hangar d'un arboriculteur, mais ce que les pompiers ignorent, c'est qu'il y a là un stock de 3 tonnes d'engrais au nitrate d'ammonium, et parmi ces pompiers, il y a Patrick Manurin.
Il y a une très grosse élévation de température et puis quelques secondes après, une explosion énorme, un champignon qui est monté à plus de 30 mètres de haut. Et là, c'était la catastrophe, le bâtiment s'est effondré, les pompiers ont été ensevelis dessous, dont je faisais partie malheureusement. Je suis retombé face contre terre, le bâtiment s'est effondré sur moi, j'ai entendu ma colonne craquer. Il y avait des matériaux qui brûlaient sur moi, donc j'avais ma jambe qui brûlait et ça faisait comme un steak dans une poêle. J'ai dit « je suis perdu quoi ». Je pensais sincèrement que j'allais mourir. Quand j'ai été dégagé, j'hurlais évidemment de douleur, hein, parce qu'on m'entendait dans tout le village entier. Vous imaginez, le fémur était sorti du bassin, le bras était dans le dos, j'ai cru que j'avais le bras arraché, la hanche fracassée, 5 fractures à la colonne vertébrale, le tympan éclaté, brûlé au 3e degré, et des séquelles très importantes. C'est un miracle qu'aujourd'hui je puisse remarcher. Je suis reconnu invalide à 80%.
Ouais, c'est assez terrible hein, ce qu'on entend là.
Oui, mais le plus terrible, c'est que Patrick Manurin n'a jamais réussi à obtenir de la justice une reconnaissance et un dédommagement lié à son handicap.
Et pour quelle raison ?
Eh bien parce que, sur le papier, l'exploitant agricole, en fait, a respecté la loi, comme l'explique à nouveau Patrick Manurin.
La plus grosse blessure qui me fait le plus souffrir, c'est d'être blessé en service commandé dans le cadre de ma mission et finalement de ne pas être reconnu parce qu'il y a eu 10 ans de combat, nous sommes battus jusqu'en cassation, il n'y a pas de responsable. Ça, c'est difficile à digérer. Comme l'exploitant était dans la légalité, en tonnage, en matière de stockage d'ammonitrate, il n'y avait pas de faute. Donc, qui dit pas de faute, pas d'indemnisation pour les sapeurs-pompiers. Et donc là, ce qui serait important aujourd'hui, c'est mettre une réglementation plus stricte, parce qu'il y a des milliers d'exploitations comme ça qui ont des faibles tonnages.
Une réglementation plus stricte, qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Eh bien, vous allez comprendre. Écoutez ce que dit là-dessus le spécialiste des risques industriels, Paul Poulain.
Toutes les installations qui stockent moins de 250 tonnes de nitrate d'ammonium ne sont pas soumises à déclaration. Elles n'ont même pas besoin d'informer le ministère de la Transition écologique de leur stockage de nitrate d'ammonium. Et donc, ces installations ne sont ni contrôlées par des bureaux d'études privés, ni inspectées par les services de l'État. Ça veut dire que potentiellement, un exploitant agricole ou une coopérative pourrait stocker du nitrate d'ammonium agricole sans respecter les mesures de base de sécurité et qu'il y ait une explosion du type d'AZF en 2001. Et aujourd'hui, nous ne faisons pas tout pour éviter qu'un accident de ce type arrive de nouveau.
Ah oui, donc ça veut dire qu'en France, si on a moins de 250 tonnes de nitrate d'ammonium, on n'est pas obligé de le signaler. Et c'est partout comme ça ?
Alors non, plusieurs pays européens comme l'Allemagne ou la Belgique déclenchent leur contrôle beaucoup plus rapidement. Dès qu'on atteint le seuil d'à peine 100 ou 300 kilos de nitrate d'ammonium agricole. Et 7 pays européens comme l'Autriche ou l'Irlande ont eux carrément interdit ce produit, notamment en raison d'un risque terroriste. On sait par exemple que l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, a utilisé du nitrate d'ammonium dans des attentats.
Et en France, on l'a intégré ce risque ?
Eh bien en tout cas, on l'a identifié le 24 mai 2016. Le patron à l'époque du renseignement intérieur, Patrick Calvar, l'a clairement dit devant la commission d'enquête de l'Assemblée sur les attentats de janvier 2015. Nous avons fait lire un extrait de son témoignage.
Je suis persuadé que les terroristes passeront au stade des véhicules piégés et des engins explosifs, et qu'ainsi, ils monteront en puissance. Ils vont finir par projeter des commandos dont la mission consistera à organiser des campagnes terroristes sans nécessairement aller à l'assaut avec la mort à la clé. Pour cela, il leur faut désartificier et organiser toute une logistique, c'est-à-dire s'installer sur notre territoire et acquérir tous les produits. Ils peuvent de toute façon fabriquer des bombes de manière artisanale, en achetant du nitrate d'ammonium par exemple.
Ah oui, donc ce risque est connu, mais c'est pas forcément le risque terroriste qui préoccupe le plus, Benoît.
Disons que le plus préoccupant, finalement, pour les experts, c'est la phase de transport du nitrate d'ammonium, toujours délicate, que ce soit dans les ports ou sur la route. Parce que, en cas d'accident, eh bien, toutes les conditions sont réunies pour que ça explose, estime Ronan Nicolas.
La grosse difficulté du transport, c'est que on ne maîtrise pas, en fait, ou très difficilement, les conditions extérieures. On a l'exemple du train qui déraille. Malheureusement, même si on a prévu tout un tas de sécurité, si le train déraille et qu'un incendie se déclare, le nitrate d'ammonium va devenir dangereux. Si on transporte du nitrate d'ammonium et que le camion qui le transporte a un accident, il est possible qu'il y ait un mélange avec le gasoil. Et là, on retrouve les composants qui font un parfait explosif. 62% des explosions de nitrate d'ammonium qui sont recensées concernent la phase de transport.
Ah oui, plus de la moitié des accidents ont lieu pendant le transport.
Oui, et ça n'a pas échappé à Paul Poulain, qui a étudié différents scénarios d'accidents. Et parmi eux, il a regardé ce qui pourrait se passer en cas d'explosion au niveau de la gare de triage de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Écoutez.
J'ai fait un calcul de détonation en Seine-Saint-Denis, à la gare de Drancy, par laquelle passent des trains qui stockent du nitrate d'ammonium agricole. En grande quantité, nous sommes sur 400 tonnes par train. En cas de détonation, les effets létaux, c'est-à-dire qui peuvent entraîner la mort, vont jusqu'à 250 mètres autour de la gare, et les effets sur les bâtiments vont jusqu'à 600 mètres. Il y a 50 000 habitants dans ce cercle de 600 mètres autour de la gare de Drancy qui habitent, mais surtout, il y a le RERB, qui passe tous les jours avec 400 000 voyageurs. On voit bien que dans ce transport de matières dangereuses, l'impact peut être terrible.
Alors je précise que du côté du fret SNCF, on nous explique que cet engrais est bien transporté, mais qu'il n'est pas stocké dans les sites ferroviaires. On indique également que l'engrais au nitrate d'ammonium n'est pas considéré comme une matière explosive et que, de toute façon, les équipes SNCF sont formées au risque du transport de matières dangereuses. Un exercice d'urgence a d'ailleurs été mené en novembre dernier sur le site de Drancy-le-Bourget.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, pas de déclaration en dessous de 250 tonnes, des risques d'explosion dans des fermes ou lors du transport, on l'a compris. Le nitrate d'ammonium, l'ammonitrate aussi, c'est dangereux. Mais il n'y a pas que les exploitations agricoles qui posent problème, Benoît Colombard.
En effet, il faut savoir qu'il existe en France 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire potentiellement dangereuses. Or, elles sont loin d'être toutes inspectées par les services de l'État. C'est en général une simple déclaration, regrette le spécialiste du risque industriel Paul Poulain. Il a lancé un collectif citoyen baptisé « Notre maison brûle » après la catastrophe de Lubrizol à Rouen.
Une grande partie des sites qui stockent des matières combustibles en France ne sont jamais inspectés. 459 000 sites soumis à déclaration, dont une partie stocke des combustibles. Donc c'est la preuve qu'on ne maîtrise pas tout et qu'on ne fait pas tout pour tout maîtriser. Il y a également 177 sites en France qui stockent plus de 1250 tonnes de nitrate d'ammonium, soit des producteurs de ces engrais, soit des coopératives agricoles. En cas d'incendie venant de l'extérieur, on se retrouverait dans une situation analogue à celle de Beyrouth, et c'est cela qui m'inquiète.
Il n'est pas le seul d'ailleurs à s'inquiéter.
Bah oui, c'est aussi le cas de tous ceux qui habitent à côté de ceux qui produisent ou qui stockent du nitrate d'ammonium, que ce soit des usines ou des coopératives agricoles. C'est par exemple le cas à Ottmarsheim, en Alsace, à une vingtaine de kilomètres de Mulhouse. Il y a 2 ans, un inspecteur des risques industriels d'une société d'assurance avait lancé l'alerte au sujet d'une coopérative agricole de céréales stockant des quantités importantes d'engrais au nitrate d'ammonium.
Ah, une coopérative qui s'inscrit dans un environnement très particulier.
Bah oui, avec d'autres sites chimiques comme l'entreprise Borealis qui peut stocker 80 000 tonnes d'ammonitrate. Et c'est ce qui préoccupe Bernard Schaeffer, membre du collectif 26 septembre Sud-Alsace qui s'est créé après la catastrophe de Lubrizol. Selon lui, une explosion aurait forcément des effets dévastateurs.
La puissance de l'explosion toucherait aussi une plateforme chimique voisine. Les habitants, évidemment, d'Ottmarsheim. Donc, il y a un contexte qui n'est pas seulement celui d'une simple coopérative agricole. Les dégâts iraient bien au-delà. Il y a eu une étude de danger en 2005. Et on constate que dans cette étude de danger, on écrit noir sur blanc qu'une explosion n'a pas à être envisagée. Une explosion d'ammonitrate. Il n'envisage que les explosions possibles de poussière de céréales, mais pas d'ammonitrate.
Mais pourquoi ne pas envisager cette hypothèse, Benoît ? Comment la coopérative et les autorités locales le justifient ?
Alors, du côté de la coopérative, on explique que leur étude de danger a été validée par les services de l'État et que si certains considèrent qu'il existe un risque de détonation, alors il faut changer la réglementation. Quant à la préfecture, elle répond que certains dysfonctionnements repérés à l'époque par le lanceur d'alerte ont été corrigés et on insiste surtout sur le fait que le produit utilisé par la coopérative, c'est-à-dire un nitrate d'ammonium calcaire avec une teneur en azote inférieure à 28%, ce produit ne serait pas détonant, donc pas dangereux.
Et on est sûr de ça ?
Eh bien, nous avons posé la question au physicien et chimiste Thierry de La Roche-Lambert. Selon lui, tant que les conditions de stockage sont bonnes, le produit reste stable, mais il y a toujours un risque.
Le problème, c'est qu'il devient instable à partir du moment où il n'est plus stocké dans ces conditions. C'est-à-dire si il est soumis à des températures qui peuvent être pas très élevées, hein, au-delà de 130 degrés, ce qui est pas grand-chose. À ce moment-là, soit il fond, soit il se décompose. C'est là qu'il y a un risque, effectivement, d'instabilité. À ce moment-là, le risque d'explosion peut survenir.
Donc lui, il n'exclut pas, hein, on entend l'hypothèse d'une explosion. Alors allons au bout de cette hypothèse, hein, Benoît, puisqu'on y est. S'il y avait une explosion, qu'est-ce qui se passerait ?
Eh bien, toujours selon le lanceur d'alerte qui était sorti de l'ombre il y a 2 ans, une vague pourrait alors toucher la centrale nucléaire de Fessenheim, située 13 kilomètres plus loin, le long du Grand Canal d'Alsace. Alors même si aujourd'hui la centrale est officiellement fermée, les piscines contenant le combustible nucléaire, elles, sont toujours là. Et c'est bien ce qui préoccupe le président de l'association Stop Fessenheim, André Hatz.
Il se trouve que ces piscines ne sont pas du tout bunkérisées. La toiture de ces piscines est constituée d'un simple bardage métallique, comme n'importe quel hangar industriel. Moi, j'ai réalisé que s'il y avait une explosion, on avait tous les risques que l'ensemble du chapeau des piscines dégringole, tombe sur les alvéoles où sont stockées les barres de combustible. Pour peu que des alvéoles soient brisées, on risque d'avoir des masses critiques de combustible qui se réunissent. Et là, c'est l'accident majeur. L'ammonitrate, il est amené par des grandes péniches qui elles-mêmes trimballent des quantités énormes d'ammonitrate. Ces péniches, elles passent juste devant les piscines nucléaires de la centrale de Fessenheim. Nul ne peut admettre l'idée qu'un simple bardage en tôle résisterait à une explosion, soit une onde de choc qui se passe à quelques kilomètres, soit l'explosion d'une péniche à hauteur de la centrale nucléaire.
Bon, et qu'en dit l'autorité de sûreté nucléaire ?
Eh bien, en résumé, la SN nous explique que l'alerte a été prise au sérieux, mais qu'au final, le scénario d'une vague suite à une explosion n'est pas jugé matériellement crédible. Quant à une éventuelle explosion ou à une onde de choc à proximité de la centrale, nous l'avons bien intégré dans nos calculs de sécurité, nous précise l'autorité de sûreté nucléaire. Écoutez un extrait de leurs explications que nous avons fait lire.
L'hypothèse d'une agression externe, d'un séisme ou d'un événement climatique extrême comme une tornade est intégrée dans notre réglementation. De même, les risques liés au convoi de matières dangereuses ou à l'explosion d'une péniche avec des produits chimiques au voisinage de la centrale, ces risques sont parfaitement pris en compte par nos règles fondamentales de sûreté.
Oui, donc pour la SN, la centrale n'a rien à craindre.
Oui, mais cet avis, il est contesté par le physicien Thierry de La Roche-Lambert, qui est régulièrement consulté sur ces questions nucléaires. Je lui ai soumis la réponse de la SN et voilà ce qu'il en dit.
Pour ce qui est des risques, des péniches qui circulent et qui peuvent, par accident, par panne, tout simplement, dériver dans le biais d'alimentation de la centrale, étant donné que la distance est moins de 300 mètres, elle est de 200 mètres grosso modo, même voire 100 mètres si la péniche est près du bord de la centrale, et en particulier de l'endroit où on stocke les fameuses piscines de désactivation des combustibles usagés, là je pense qu'il y a un risque. Il pourrait y avoir une destruction des bâtiments d'entreposage des combustibles. C'est pas un bâtiment bunkérisé. Pour un chimiste comme pour un physicien, c'est un vrai risque.
Et j'ajoute que le collectif mobilisé sur ce risque d'explosion vient d'écrire à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, pour l'alerter sur le sujet.
Bien, on va s'interrompre un moment là-dessus, si vous voulez bien, Benoît. Mais surtout, restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons voir qu'en Loire-Atlantique et en Gironde, la présence de nitrate d'ammonium pose aussi question.
Love is back. Love is back. So I did, and I saw
Une voix comme on en avait peu entendu depuis Amy Winehouse, c'était Love Is Back, le dernier single de Céleste, la nouvelle diva anglaise de la soul.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et retour à notre voyage au pays du nitrate d'ammonium. On a vu que des experts s'inquiétaient de ce qui pourrait se passer en Alsace en cas d'explosion. Mais d'autres régions vivent aussi avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, Benoît Colombard.
Oui, c'est notamment le cas en Loire-Atlantique, dans la commune de Montoire de Bretagne, précisément, non loin de Saint-Nazaire. C'est là qu'est installée l'une des usines de l'entreprise norvégienne Yara.
Et qu'est-ce qu'on y fait chez Yara ?
Eh bien, c'est le numéro un mondial des engrais chimiques, 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À Montoire de Bretagne, elle produit 1200 tonnes d'engrais à base de nitrate d'ammonium par jour, avec une capacité de stockage de 112 000 tonnes. Elle est donc classée usine Seveso. Et ces dernières années, elle a souvent été rappelée à l'ordre, constate la présidente d'une association locale, Marie-Aline Leclerc.
Elle ne respecte absolument pas la réglementation imposée, ni au niveau de ses rejets dans l'environnement, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, ni au niveau de sa mise en conformité par rapport à la sécurité de ses salariés et des riverains. Ça fait plusieurs années que la préfecture produit des mises en demeure, et là, depuis quelque temps, on est monté d'un cran, on produit des mises en demeure assorties d'astreintes financières. La première astreinte financière, c'était 150 euros d'amende par jour. Donc là, nous sommes passés là le 23 décembre avec des amendes de 300 euros par jour. On se demande jusqu'où nous allons aller, puisque l'industriel fait vraiment la sourde oreille à tout ce qui lui est imposé. Donc on a l'impression qu'effectivement, il préfère payer les amendes plutôt que de se mettre en conformité.
Et on vous le confirme ça du côté de l'entreprise ?
Alors, Yara reconnaît des rejets non autorisés dans l'air et dans l'eau, mais l'entreprise assure avoir agi et travaillé étroitement avec les services de l'État pour améliorer la sécurité de son usine.
Et la préfecture, elle, qu'est-ce qu'elle en dit ?
Eh bien, elle dit être très vigilante. Écoutez Christophe Henbel, il est le chef de l'unité départementale de la DREAL de Loire-Atlantique, chargé de contrôler les sites industriels.
Il est normal que les riverains soient soucieux de la sécurité. Les services de l'État sont vigilants pour le contrôle de cette installation. Le site de Yara fait l'objet d'une surveillance renforcée. C'est 10 inspections qui ont été menées ces 3 dernières années. Des exercices de secours sont également menés pour faire en sorte de simuler si jamais un jour il y avait un accident. Donc les dispositions sont prises pour bien prévenir ce risque et limiter les risques associés à la survenue d'un accident sur ce site.
Ouais, donc lui se veut plutôt rassurant. Alors ça, c'est pour la Loire-Atlantique, Benoît. Maintenant, on va descendre un peu plus au sud.
Oui, à Ambès, en Gironde, où là encore, l'usine Yara produit une grosse quantité d'engrais à base de nitrate d'ammonium. Elle peut en stocker jusqu'à 60 000 tonnes. Bernard Bancarel habite juste en face de l'usine, de l'autre côté de la Garonne. Il se bat depuis des années contre les nuisances sonores de l'entreprise. Il s'inquiète aujourd'hui d'un risque d'accident grave.
On a, par exemple, de façon très récente, une mise en demeure et une sanction, d'ailleurs, qui a été prononcée pour fonctionnement de l'usine, malgré des injonctions d'arrêt à la suite de défaillances sur du matériel. La politique de cet industriel, c'est de fonctionner suivant des règles qu'il fixe lui-même, en laissant le temps se passer. Ça fait tout à fait le jeu de l'industriel qui lui poursuit son activité en toute impunité.
Et une autre habitante de la région, elle aussi, se pose beaucoup de questions. Elle s'appelle Sylvie Noni. Cette chimiste de formation participe à la commission de suivi de site d'Ambès Sud, où sont passées en revue les entreprises Seveso, dont fait partie l'usine Yara.
Il y a des engrais à base de nitrate d'ammonium qui ne sont pas conformes aux exigences de qualité. Mais ils sont mis sur le bord de la chaîne de fabrication sans conditions de sécurité respectées. Ces déchets, ces rebuts, si vous voulez, de la fabrication, ils peuvent être détonants, ils peuvent ou alimenter des incendies. On doit les inerter, leur faire un traitement qui les rend inertes et incapables d'exploser. C'est préoccupant. À un autre endroit de la chaîne, il y a un tapis roulant qui transporte les engrais et il y a des chutes. Ce qui est ramassé, balayé, entreposé et entassé, ça doit être traité avec précaution. Il peut aussi y avoir une cause d'accident venant de l'extérieur. Yara France à Ambès se trouve à 400 mètres à vol d'oiseau d'une entreprise, l'établissement pétrolier de Gironde, EPG, qui stocke du diesel, de l'essence et puis même maintenant un nouveau stock d'éthanol. Nous, on pose la question, avez-vous étudié le risque d'effet domino si ça pète chez EPG? Quel est le risque que ça touche Yara? On nous répond, on a étudié la question, il n'y a pas de risque.
Il n'y a pas de risque, c'est ce qu'on vous a dit aussi.
Alors, ce que disent les services de contrôle de la DREAL, c'est que l'usine Yara est sous surveillance, elle a été inspectée à 9 reprises ces 2 dernières années avec 4 mises en demeure, des rappels à l'ordre qui ne mettent pas en jeu l'environnement ou la santé des riverains, assure le chef de l'unité départementale de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, Olivier Perrault, et pour bien se faire comprendre, il prend l'image du code de la route.
La peine n'est pas la même si vous ne mettez pas votre clignotant et si vous dépassez de 30 km/h la limite de vitesse. Donc de la même manière, en installation classée de protection de l'environnement, il y a des non-conformités qui ne mènent pas à retirer le permis, si je peux me permettre l'analogie. Le risque global du site, il est pour nous parfaitement maîtrisé. Dans l'étude de danger, il a été étudié, les conditions qui mènent à ce risque ont été étudiées et donc des mesures de maîtrise des risques sont prises en compte pour que ça n'arrive jamais.
Ouais, donc lui se veut plutôt rassurant.
Oui, mais les riverains, eux, veulent plus d'informations, plus de transparence. Ils réclament par exemple la publication des rapports d'inspection des sites Seveso et d'une manière générale, plus de contrôle.
Mais vous disiez que Yara avait été contrôlée 9 fois en 2 ans.
Oui, mais là on parle d'un cas un peu particulier sur un site Seveso. Si on prend un peu de hauteur, on constate qu'en France, les contrôles sont le maillon faible des services de l'État, estime le spécialiste des risques industriels Paul Poulain.
Nous avons eu en 2019 9000 sites inspectés sur les 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement. 1600 inspecteurs travaillent aujourd'hui. 50 recrutements ont été annoncés suite à Lubrizol, mais pour inspecter les sites tous les 5 ans, au moins une fois, nous aurions besoin de 9000 inspecteurs et inspectrices. Aujourd'hui, on nous répond qu'économiquement, ce n'est pas entendable. Néanmoins, la police nationale a recruté 8000 agents, enfin, a annoncé le recrutement de 8000 agents entre 2019 et 2021. Donc on voit bien que selon l'enjeu, on décide de mettre les moyens ou non.
Ouais, donc lui, il pense qu'il y a une disproportion des moyens.
Bah oui, parce qu'en face, il y a souvent de grosses sociétés avec d'importants budgets. C'est le cas de la société Yara qu'on évoquait à l'instant. Écoutez Martin Pigeon. Son ONG, Corporate Europe Observatory, a justement publié un rapport sur le lobbying européen du géant norvégien. Et dans ce rapport, on explique comment des entreprises comme Yara tentent de peser sur la réglementation.
Ils utilisent par exemple les services d'une société de conseil en lobbying qui leur obtient des rendez-vous avec des décideurs. Ensuite, on voit que Yara, elle appartient à un certain nombre d'autres lobbies, comme le lobby de la chimie par exemple. Si on intègre en fait les budgets de l'ensemble des lobbies auxquels elle appartient et qui défendent ses intérêts, on arrive à un chiffre global d'environ, allez, un petit peu moins de 12 millions d'euros, 11 850 000, ce qui contraste évidemment beaucoup avec leur budget de lobbying propre tel qu'ils le déclarent, qui est d'environ 400 000 euros pour 3 lobbyistes, même pas à plein temps d'ailleurs, qui défendraient en propre les intérêts de cette entreprise.
Ouais, donc le lobby des engrais chimiques est puissant, mais en même temps, Benoît, en face, il a des détracteurs.
Oui, ce que disent certains, c'est qu'il faudrait réduire, voire supprimer cette consommation d'ammonitrate, donc en fait, changer de modèle agricole. D'autres scénarios sont possibles, estime Anne-Laure Sablé, des Amis de la Terre.
Tout l'enjeu, il n'est pas du jour au lendemain de dire il n'y a plus d'engrais chimiques en France, il n'y a plus de nitrate d'ammonium. C'est bien une trajectoire qu'il faut viser. Par exemple, d'ici à 2050, arriver à 0 engrais chimiques, ça, c'est une trajectoire de réduire progressivement et d'accompagner les agriculteurs. C'est très important aujourd'hui de mettre en place les mesures qui permettent aux agriculteurs d'enclencher cette transition. On a une étude aujourd'hui qui montre qu'on pourrait se permettre au niveau européen de réduire de 35% notre niveau de production agricole, tout en garantissant encore une alimentation suffisante, en quantité suffisante, de qualité suffisante et durable pour l'environnement.
Et des propositions qui reprennent d'ailleurs cette idée ont été faites récemment.
Oui, par la Convention citoyenne pour le climat, elle a proposé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés pour justement aider les agriculteurs à changer de modèle. Mais la proposition a été dynamitée en coulisses par le ministère de l'Agriculture, comme l'a révélé le journaliste du site Reporter, Gaspard Dalins.
on a reçu à Reporter une note qui était écrite par la DGPE, donc c'est la Direction Générale de la Performance Économique et Environnementale des Entreprises, qui est un service du ministère de l'Agriculture, et elle écrit en fait sans phare, de manière assez précise, qu'il ne faut pas donner suite à cette mesure de la redevance sur les engrais azotés. Elle critique très clairement, là je la cite, hein, j'ai le document sous les yeux, le manque de pertinence de l'approche proposée et le risque élevé de perte de compétitivité pour l'agriculture française vis-à-vis de ses concurrents européens et son faible rendement en termes de bénéfices environnementaux. Finalement, on n'a plus besoin de la pression de l'agro-industrie ou des syndicats agricoles. Ici, c'est la fonction publique, en fait, c'est l'État lui-même qui s'oppose aux mesures. Le lobby, c'est celui qui prône en fait l'inertie, c'est l'État et l'administration.
Mais pourquoi, Benoît, qu'est-ce qui s'est passé au final ?
Eh bien, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a finalement renvoyé la proposition à 2024. Alors, je précise que du côté du ministère de l'Agriculture, on nous explique que mettre en place une telle redevance sans laisser le temps aux agriculteurs de s'adapter, cela entraînerait un stockage massif de ces produits. Ce serait donc contre-productif, selon le ministère. Et j'ajoute que suite à la catastrophe de Beyrouth, le gouvernement a lancé une mission sur les risques liés au transit du nitrate d'ammonium dans les ports français. Mais cette mission ne concerne ni les exploitations agricoles, ni les sites industriels.
Bon, merci Benoît, on va essayer de passer quand même un bon week-end. Alors je précise qu'on peut réécouter cette enquête, on peut la podcaster, on peut la lire sur franceinter.fr, mais aussi sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France, ou encore sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Raphaël Rousseau. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.